Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
Tu fais quelque chose ce soir? Est-ce que tu veux t'éclater avec moi?
Courtney Holmes, je suis un peu surpris. Mais ok, j'accepte.
À minuit, au sous-sol, niveau C.
Alors, on fait quoi?
Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses une minute et ensuite tu me ramènes.
Ok. Et là, c'est le moment où tu me dis que c'est une blague.
Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier par nous-mêmes. On pourrait rédiger une étude sur cette expérience. T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à de l'énergie pure. Et elle joue du piano maintenant. On dirait que son cerveau a été reprogrammé.
Je veux être le prochain.
Chargé à 200.
C'est un bon jour pour mourir.
On dégage.
Je vais guérir tous ceux qui passent entre mes mains aujourd'hui. C'est un éveil spirituel.
3 minutes. Jenny en a fait que 2. Qu'est-ce que tu veux? On a l'esprit de compétition. Je suis la prochaine. 5 minutes. 7 minutes.
Personne n'a jamais survécu à ça.
C'était si bien que ça. Y'a rien qui t'a perturbé. Il se passe des choses étranges. Je crois que je deviens folle.
Peut-être qu'on a ouvert une porte.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans les Radio X-Files, édition du 23 janvier 2026. À l'instant, on accueille Christian Page. Bon vendredi, Christian.
Bonsoir, Nick.
Comment vas-tu?
Ça va très, très bien.
Oui,
mieux que les gens dans notre,
ouais,
dans notre extrait audio qui, eux, qui se donnaient la mort à... ouais, volontairement.
Très particulier, hein?
Oui, effectivement. En fait, ce qu'on vient d'entendre, ça lance un peu la thématique de ce soir, parce,
oui,
qu'on va surtout parler de parapsychologie, on en revient un peu toujours à nos 4 thèmes réguliers. Et cette semaine, c'est le thème parapsychologie, cryptozoologie. On a une petite note de cryptozoologie en fin d'émission, mais surtout, on va beaucoup parler d'une nouvelle étude qui est parue sur les expériences de mort imminente, les NDE, hein, de l'acronyme anglais Near Death Experience, ou EMI en français. Et ce qu'on vient d'entendre, probablement que ça a sonné une cloche à beaucoup d'auditeurs, c'est un extrait du film 2017 Flatliner, hein, l'expérience interdite, qui était lui-même un remake d'un film de 1990 qui mettait en vedette des Kiefer Sutherland dans la version originale de 90. Et le film, hein, on suit un groupe d'étudiants en médecine qui décide d'aller voir un peu, parce que bon, ce soir, on va beaucoup parler d'expériences de mort imminente. Tout de suite, là, de quoi s'agit-il? Bien, à moins d'avoir vécu sous une pierre au cours des 50 dernières années, là, bon, les expériences de mort imminente, ce sont ces expériences qui sont rapportées par des gens au seuil de la mort. C'est-à-dire,
oui,
qu'ils ne sont pas vraiment morts. Bon, parce que la mort, il faut bien s'entendre, c'est un processus qui est plus ou moins réversible. Hein, il y a 2 siècles, si tu avais un arrêt cardiaque, le processus n'était pas réversible, tu étais mort. Mais aujourd'hui, on le sait, grâce à des cocktails pharmaceutiques, soit encore avec l'intervention rapide d'urgentologues, les électrochocs et tout le reste, la mort, ce processus qui peut durer quelques minutes, peut être à un moment donné renversé. Et alors qu'il est renversé, donc quelqu'un a un arrêt cardiaque, on fait des électrochocs, on le ramène à la vie, ben, le processus a été renversé. Durant ces 2 ou 3 minutes, ben, il était somme toute au seuil de la mort.
Ouais.
Il y a tout un débat autour de ça. On aura l'occasion d'en reparler, là, mais il y a tout un débat autour de ça. Et ces expériences, généralement, les gens qui sont ramenés comme ça à la vie, en disant ça comme ça, on a à peu près aux États-Unis, à peu près, on a des chiffres pour les États-Unis, mais on sait que dans les grands pays occidentaux, là, ce chiffre-là est à peu près le même. On a à peu près, là, 10 % de la population qui dit avoir vécu des expériences de mort imminente. Et ce 10 %, ben, il est composé en fait de gens qui ont été ramenés à la vie, soit encore une fois par des médicaments là, d'urgence qu'on les a administrés pour les ramener à la vie, ou encore par des électrochocs, ou bref des manœuvres qui ont permis de les ramener à la vie. Et c'est à peu près 30 % des gens. Hein, souvent quand on parle avec le public, ils ont l'impression que dès qu'on vit une expérience, dès qu'on est au seuil de la mort, on vit automatiquement l'expérience. expérience? Pas du tout. Il y a à peu près seulement 30 % des gens qui ont passé par cette étape-là qui se souviennent de cette expérience-là. Donc, pour 70 % des gens, la mort n'a été qu'un grand vide noir. T'sais. Mais encore une fois, il y a tout un débat autour de ça. Est-ce que tout le monde rêve, hein? Chaque nuit, les gens rêvent, mais il y a à peu près un 40 à 50% des gens, là, en fait, c'est 46% des gens, qui disent ne jamais se rappeler de leurs rêves. Hein, pour eux, là, ils se réveillent le matin, ils n'ont pas rêvé.
Jamais de souvenirs.
C'est ça. Okay. Souvent, on entend les gens dire « Ah, moi, je rêve jamais.
Ouais. »
C'est pas vrai. On rêve tous. Mais, puis on rêve beaucoup. Hein? Je veux dire, c'est plusieurs heures par nuit sur différentes périodes de rêve. Et plus la nuit, plus on passe d'une étape à une autre, plus le rêve s'allonge. Hein? Donc, les premiers rêves qu'on va faire vont durer quelques minutes, là, 4-5 minutes. Puis le dernier rêve qu'on peut faire, là, on peut avoir une longue période de rêve qui peut s'étirer jusqu'à 2 heures. Hein, de manière ininterrompue. Mais pourtant, il y a des gens qui se réveillent le matin en disant « Moi, j'ai jamais rêvé. T'sais, je rêve jamais. » Alors, en réalité, c'est parce que dès qu'on se réveille, on oublie nos rêves. Ça peut être un peu le même élément qu'on retrouve avec les expériences de mort imminente. Peut-être que tout le monde vit une expérience, entre guillemets, onirique, là, un peu fantastique, mais que seulement 30 % des gens s'en rappellent. Quoi qu'il en soit, cette expérience, je pense qu'elle a été abondamment décrite dans des documentaires, dans des films, notamment dans The Flatliner. C'est une expérience où, au moment où la personne décède, bien, elle a l'impression que... Puis c'est important de mentionner que ces expériences-là, elles sont communes à tous les gens, quelle que soit leur obédience religieuse. Hein. Les mots changent. Hein, les gens, par exemple, dans des pays catholiques diront « j'ai vu de la lumière que j'ai associée à Dieu ». Dans les pays musulmans, diront que c'est de la lumière qu'ils ont associée à Allah. Mm-hmm. Dans des pays, par exemple, du sud-est asiatique ou le bouddhisme, par exemple, ils vont dire ben, « nous, on a cru que c'était une espèce de savoir éternel, tu sais, ou Bouddha, ou peu importe ». On va changer les noms, mais grosso modo, l'expérience, elle est la même pour tout le monde, quelle que soit notre obédience religieuse.
Je pensais que c'était vraiment relié à la religion catholique.
Pas du tout. C'est simplement les mots utilisés qui vont changer. Des gens diront, les athées diront, quand j'étais de l'autre côté, j'ai eu l'impression de rencontrer des gens, des proches, hein, des gens décédés. D'autres diront, j'ai eu l'impression de rencontrer des anges ou le Christ. Donc, tu vois, les mots changent, mais l'expérience, elle est à peu près la même et elle se définit par, au départ, les gens, après le décès, ils ont l'impression de sortir de leur corps. Il y a un voyage. Parfois, des gens vont décrire une espèce de tunnel avec une lumière. Donc, il y a un voyage qui se fait, un déplacement qui se fait à la fois comme dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. Et là, les gens disent se retrouver dans un endroit où il y a comme un grand sentiment d'amour. Et là, ils vont être en contact avec soit des entités qu'ils vont associer à la religion, à leur religion, ou encore simplement de la lumière ou à une connaissance universelle. Et ensuite arrive le moment où ils ont toujours une espèce de choix, une période où ils vont voir leur vie un peu comme un flashback. Ou en accéléré, ou en flashback, ou à reculons, là, rétroactivement. Et ensuite, ils ont comme le choix de rester ou de partir. Et là, quand ils repartent, bien, ils réintègrent leur corps. Et ça constitue l'expérience de mort imminente. Il y a tout un débat autour de ces expériences-là. Pas sur l'expérience. C'est bien important ici, parce que ce soir, je vais demander aux auditeurs là, t'sais, de compartimenter les choses. Là.
Okay.
L'expérience elle-même, l'expérience de mort imminente, elle n'est pas discutable. C'est-à-dire que l'expérience, elle est réelle. Donc ça, on s'entend. Là. Les gens sont ramenés, puis là, ils disent, ben voilà, je me rappelle de cette expérience. Ouais. À partir du moment... Donc, il n'y a pas de problème. Là. Les gens n'inventent pas ces histoires-là. Ils la racontent parce qu'ils l'ont. C'est ça. Donc maintenant, c'est l'interprétation. C'est un peu comme les ovnis. Hein. Souvent, les gens disent, les ovnis. Oui, mais les ovnis, personne ne doute que les gens voient des choses dans le ciel qu'ils n'arrivent pas à expliquer. C'est pas le témoignage qu'on remet en question. C'est pas de est-ce que j'y crois ou j'y crois pas. C'est pas ça. Les gens voient des choses dans le ciel qu'ils n'expliquent pas. La question est l'interprétation. Est-ce que ce que les gens voient dans le ciel, c'est des vaisseaux spatiaux extraterrestres ou des ballons sondes qu'ils n'ont pas reconnus ou des avions qu'ils n'ont pas reconnus, tu comprends? Mais l'expérience empirique de la personne qui le vit, il a vu quelque chose dans le ciel qu'il n'explique pas. Et l'expérience de mort imminente, elle est de la même façon. Donc, dans le film de Flatliner, Les étudiants se donnent la mort, puis ils vont 2, 3, 4 minutes, hein, il y a une surenchère du temps où ils vont demeurer morts pour essayer de voir davantage ce qui se passe de l'autre côté. Puis, bon, évidemment, c'est un film, on ajoute des éléments autour de ça pour rendre ça un peu plus fantastique, mais ça, grosso modo, c'est l'expérience de la mort imminente. Là où il y a des débats, le premier débat, bien sûr, c'est à quel moment l'expérience se produit. Parce que contrairement à ce que l'on dit, on n'est pas sûr, parce que les gens, là, qui sont, imagine, prenons-toi comme exemple, je te le souhaite
oui,
pas, là,
non,
mais prenons-toi, père. Tu as un arrêt cardiaque, et là, tu meurs pendant 3 minutes et on te ramène à la vie. Bien, évidemment, dès qu'on te ramène à la vie, tu ne sors pas de ton éveil en disant « Oh, messieurs les médecins, j'ai vécu une expérience de mort imminente. »
Non,
c'est pas ça, tu comprends? Donc, généralement, les gens qui vont livrer l'expérience, ils vont la livrer des jours, sinon des mois après l'expérience, en disant « Ouais, quand j'ai eu cette expérience-là, je me rappelle de ça. » Mais à quel moment l'expérience se produit-elle? Est-ce qu'elle se... Parce qu'au moment où moi, je te ramène à la vie, là, par exemple, je te donne un électrochoc et je te ramène à la vie, quand tu vas me raconter après ton expérience en disant « J'ai vu ci, j'ai vu des lumières », est-ce que ça s'est passé durant les 3 minutes que tu étais mort ou est-ce que ça s'est passé dans les 3 minutes avant que tu meurs ou dans les 3 minutes où on t'a ramené à la vie? Comprends-tu?
Oui.
Donc, finalement, les échos que tu dis, j'ai entendu des voix dans l'au-delà, c'était peut-être les échos des voix des infirmières dans le bloc opératoire, par exemple, ou à l'urgence. Hein? La lumière que tu as vue très puissante, tu disais, j'ai vu un tunnel. Est-ce que c'est la lumière de l'au-delà ou c'est la lumière placée au-dessus de toi parce qu'il y avait un médecin qui était penché au-dessus de toi et tu étais très éclairé par des lampes? Tu vois, il y a ce débat-là. À quel moment le voyage se fait? Est-ce qu'il se fait réellement durant la période où la personne est techniquement décédée, ou est-ce qu'elle se fait un peu avant ou un peu après? Et si ça se fait un peu avant ou un peu après, ben t'es pas vraiment mort, t'as été ramené à la vie, là, tu sais, t'es comme dans un état comateux.
Oui.
Et même quand l'expérience se produit, au moment où la personne est décédée, il faut encore s'entendre sur qu'est-ce que la mort. Hein? La mort, autrefois, là, il y a 2 siècles, le cœur arrêtait d'une personne, on disait « il est mort ». Aujourd'hui, on sait très bien que le cœur peut t'arrêter, puis on peut te maintenir en vie pendant des jours avec un cœur arrêté. Hein? Je veux dire, dans des opérations, par exemple, très complexes, on pense par exemple à une transplantation cardiaque, on retire littéralement le cœur du patient. Là. Donc, le sang est oxygéné par des mécanismes extérieurs, mais techniquement, la personne est morte, elle n'a plus de cœur. Tu comprends? On y a enlevé, on est en train d'y en mettre un autre. Là. Donc, la mort est une espèce de définition qui est un peu variable ou à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, l'arrêt cardiaque était la mort. Puis aujourd'hui, un arrêt cardiaque, c'est le début du processus de la mort. Mais encore une fois, il peut être suspendu par des appareils, notamment dans le cas d'une transplantation cardiaque, ou encore il peut être inversé par des mécanismes de survie ou de réanimation. Donc, il faut s'entendre que la mort, c'est pas seulement le cœur qui arrête, ce sont toutes les fonctions qui vont s'arrêter progressivement les unes après les autres. Et quand tous les mécanismes vitaux se sont arrêtés, le cerveau et tout le reste, je suis désolé de te dire qu'on n'a jamais ramené personne rendu à cet état-là. Tu comprends? Donc,
oui.
Il est arrivé qu'on ramène à la vie, dans des cas extrêmes, qu'on ait ramené des gens à la vie parce qu'il y avait eu un arrêt cardiaque et il y avait des encéphalogrammes plats. Mais encore une fois, dans le domaine des neurosciences, les neurochirurgiens, les spécialistes ne sont pas tous convaincus que le fait qu'un électroencéphalogramme plat soit significatif de la mort. Hein? Ce n'est pas forcément une mort cérébrale. Dans les premières, à partir du moment où on a un encéphalogramme plat, il n'est peut-être pas interdit d'imaginer qu'on a encore un jeu là, de quelques secondes, 30 secondes, pour ramener à la vie la personne et l'activité neurologique cérébrale va reprendre de manière plus ou moins normale. Donc, il y a un débat autour de ça. Et au-delà de à quel moment le voyage se fait, l'autre débat, c'est bien sûr de savoir la personne, ce qu'elle voit, est-ce que c'est vraiment une vision de l'au-delà ou est-ce que c'est d'autres mécanismes qui entrent en ligne de compte? Et là, c'est le grand débat. Puis il faut quand même le dire, de toi à moi,
ouais.
La frontière de la mort, ça reste encore un très grand mystère. Et au fur et à mesure que la science avance, c'est vrai qu'elle apporte beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses qui, aujourd'hui, en fait, des phénomènes paranormaux qui relèvent essentiellement de la croyance. Hein, les fantômes, les ovnis, tu y crois pas. Mais bon, entendons-nous que les preuves matérielles sont un peu déficientes. Alors que dans le cas de la mort, que tu y crois ou tu y crois pas, on va tous mourir.
Oui.
Donc, tu comprends. Donc ça, il y a une réalité là, ici. Là. Et évidemment, cette grande question de la frontière de la mort, est-ce qu'il existe quelque chose après la mort, au-delà des concepts religieux? Bien évidemment, ça fascine. Et pourquoi je te parle de ça ce soir? Puis là, je vois déjà, on est déjà, on voit déjà
oui. le temps qui file. Il reste ça fait 5 minutes.
Ça roule, hein? Ouais. En fait, c'est il y a une étude, une très intéressante étude qui a été publiée l'an dernier, 2025. Elle a été d'abord reprise par le National Library of Medicine aux États-Unis, qui est un peu l'organisme scientifique de la médecine, quoique avec Robert Kennedy Jr., la National Library of Medicine est plutôt dans la tourmente. Et cette étude a été reprise ensuite dans le Nature Reviews Neurology, donc un périodique scientifique de neurologie qui est publié dans la foulée du magazine Nature, là, qui a plusieurs cordes à son arc. Et je te fais grâce de l'anglais. Là. En français, le titre de cet article, c'était « Un modèle neuroscientifique des expériences de mort imminente ». Donc, on avait un groupe de scientifiques et, comme le titre l'indique, un modèle neuroscientifique, c'était principalement des chercheurs dans le domaine de la neurologie qui se sont penchés sur les expériences de mort imminente et ils ont essayé de trouver une explication à ce qui se produit. Et, il y a plusieurs éléments qui sont fort intéressants. On a longtemps cru, par exemple, que quand on mourait, le cœur s'arrêtait et que notre cerveau, il s'arrêtait de manière,
plus lente,
mais de manière, continue. C'est-à-dire que je pourrais le comparer, par exemple, un rhéostat. Hein? Tu as une lumière, puis tu as un rhéostat, tu baisses peu à peu le rhéostat, la lumière baisse, et elle s'éteint. Bon. On imaginait que le cerveau s'éteignait un peu de la même façon. Hein? L'activité cérébrale diminuait, puis finalement, elle s'arrêtait. Maintenant, les recherches montrent que ce n'est pas comme ça que notre cerveau s'éteint. Notre cerveau s'éteint plutôt à l'image d'une grande maison où on aurait allumé les lumières dans toutes les pièces. Et c'est pièce par pièce que les lumières se ferment.
OK.
Et une des dernières lumières, la dernière pièce à peu près où on voit la lumière s'éteindre, c'est une zone du cerveau qu'on appelle la zone de Broca. Et cette zone-là, c'est également là que se forge nos souvenirs autobiographiques. Donc, si je te demande, toi, par exemple, Nick, est-ce que tu te rappelles quand tu avais 12 ans, tu allais à l'école, etc. Dès que tu vas faire appel à tes souvenirs autobiographiques, c'est cette zone-là qui sera particulièrement sollicitée. Or, curieusement, quand les gens vivent une expérience de mort imminente, une des dernières choses qu'ils se rappellent, c'est d'avoir vu leur vie défiler devant eux. Or, la dernière zone qui s'éteint de notre cerveau, c'est la zone où se créent ces fameux souvenirs autobiographiques. Donc, il y a une coïncidence qui est assez amusante ici. Et on comprend que dans le domaine des neurosciences, on va vite l'associer. La zone de Broca est la dernière zone qui s'arrête. C'est là que se forgent les souvenirs autobiographiques. Et l'expérienceur de la mort imminente dit que la dernière chose qu'il se souvient, c'est des souvenirs de sa vie antérieure. Donc, c'est un peu le genre de recherche que ces gens-là ont mené. Ils ont essayé de trouver des coïncidences ou des rapprochements entre le narratif de l'expérience de la mort imminente versus ce qu'on pouvait démontrer avec de la recherche. Et là, j'aurais voulu t'en parler davantage, mais comme il reste à peu près 2 minutes,
oui.
je vais te dire que, bon, ils ont établi une série d'éléments comme ça, zone de Broca, tout le reste. Ils ont également évoqué le fait que peu à peu, le sang manque d'oxygène, et là, il y a un phénomène d'anoxie qui va commencer à se produire. Le cerveau va commencer à halluciner. Donc, on trouve des mécanismes neurologiques. À tout le moins, dans ce modèle-là qui était proposé, on arrivait assez bien à présenter là, 7 ou 8 éléments d'ordre neurologique qui pouvaient rendre compte de l'expérience de la mort imminente. Ce qui réduisait finalement l'expérience de la mort imminente, non pas à un phénomène presque mystique ou ésotérique, mais simplement à un phénomène neurologique. Ton cerveau meurt, puis quand il meurt, il produit ces effets-là, ces hallucinations, autrement dit, et ce sont ces hallucinations-là qui sont le cœur de l'expérience de la mort imminente. Et, l'article a été publié, comme je l'ai mentionné, en 2025. Et là, voilà qu'on commence à voir dans le milieu de la recherche qui s'intéresse au phénomène de mort imminente, et en particulier à l'Université de la Virginie, qui ont une espèce d'unité spéciale qui s'intéresse à ces phénomènes de réincarnation et de mort imminente de manière très rigoureuse, dans la façon académique. Et ces gens-là viennent de publier, en fait, une espèce de critique de cette analyse-là en disant, oui, bon, d'abord, il y a félicitations hein, que des médecins, des neurologues se penchent sur des expériences qui sont souvent considérées comme marginales. Oui. Donc, on voit, il y a déjà là, faut le faire. Mais quand même, quand ils ont comparé des données, bien, il y a quand même quelques petits reproches qu'on leur a adressés. Par exemple, d'avoir fait une espèce de sélection un peu arbitraire de récits d'expériences de mort imminente qui cadraient avec leur, ce qu'ils proposaient. Alors qu'en réalité, par exemple, quand il y a un phénomène, par exemple, où il y a une il y a un phénomène d'anoxie, ben c'est généralement, ici, ce phénomène d'anoxie entraîne une répercussion au niveau d'un sens, ben c'est généralement un seul sens qui est touché, l'ouïe ou la vue, mais pas tous les sens en même temps, comme c'est dans le cas, par exemple, dans l'expérience de la mort imminente. Et si c'est vrai que certaines parties du corps, lorsqu'on va certaines parties du cerveau, lorsqu'elles sont sollicitées ou non sollicitées par des électrochocs et tout le reste, c'est vrai que des gens vont dire « j'ai senti un effet de décorporation ». Alors là, dans cette étude, on dit ben, « la décorporation, on la retrouve dans la mort imminente ». Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans la mort imminente, il n'y a pas seulement un effet de décorporation, il y a souvent la vision du corps vue comme, par exemple, du plafond. Or, ces éléments-là, on ne les explique pas de manière neurologique. Bref, si on devait faire un résumé, c'est que le modèle qui nous est proposé, qui a été proposé l'an dernier, est un modèle très intéressant. Félicitons les chercheurs d'avoir fait cet effort-là, mais malheureusement, il y a encore des éléments qui échappent à ces explications-là et qui laissent la porte ouverte à d'autres explications d'ordre peut-être un peu plus mystique ou ésotérique. Mais bon, attendons, voyons ce que la science va nous apporter au cours des prochaines années.
Fort intéressant.
Je vais en parler beaucoup plus, oui. Mais le temps nous manque. Ah, alors, absolument. Allons-y comme ça, allons-y à la pause, puis après, bien, je te parle du syndrome de la Havane.
Allons-y dès maintenant, bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98 Radio X.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files. Christian Page, juste avant la pause, on parlait de mort imminente. Et là, tu me disais, je vais te parler également du monstre du Loch Ness.
Oui, puis mais je voulais te passer avant le syndrome de la Havane.
Ah oui, c'est vrai.
Écoute, le syndrome de la Havane, c'est un peu... Là, je me posais la question. Je disais, est-ce que je le mets dans cette émission-là ou je le mets la semaine prochaine? Parce que la semaine prochaine, c'est notre émission sur les mystères oui. historiques et parfois théories du complot. Et c'est vrai que dans le cas du syndrome de la Havane, on est à mi-chemin entre la théorie du complot et le phénomène parapsychologique. Donc, qu'est-ce que c'est ce syndrome de la Havane? Je le rappelle pour les gens. À partir de 2016, principalement... des employés de, principalement encore une fois, de l'ambassade des États-Unis qui était en fonction à La Havane, à Cuba, mais on a également des employés de l'ambassade canadienne également, et pas essentiellement à La Havane, principalement à La Havane, mais pas essentiellement okay. à La Havane. Il y a des gens qui travaillaient, par exemple, du côté de la Chine ou encore du côté de la Russie, qui ont prétendu également avoir souffert de ces symptômes. Donc, imaginons, on a des employés, et puis soudainement, du jour au lendemain, ils commencent à présenter des symptômes. Symptômes, maux de tête, migraines, nausées, étourdissement. Et bon, ben, éventuellement, tout ça les handicape à un point tel qu'ils doivent laisser leur travail. C'est ce qu'on appelait le syndrome de la Havane. Donc, c'est plusieurs petits mots qui, individuellement, c'est pas très grave, mais pris collectivement, ces mots-là deviennent très handicapants. Et des études ont été menées auprès de ces gens-là aux États-Unis. Puis, dans certains cas, on a trouvé des lésions. Mais encore une fois, ça reste très ambigu. Et jusqu'à tout récemment, puis je pense que, je dis jusqu'à tout récemment, mais encore aujourd'hui, je pense qu'on est toujours un peu dans cette même figure. Il y a une espèce de débat. Est-ce que les gens qui souffrent du syndrome de la Havane, est-ce que c'est une maladie psychosomatique ou est-ce qu'on est vraiment dans le cadre d'une véritable maladie de type neurologique? Donc, il y a un débat entre les deux. Et ça me fait penser un peu au fameux, à la maladie de Lyme, hein, ou Lyme, là. C'est-à-dire que les gens qui souffrent de la maladie de Lyme, longtemps, le milieu médical disait « Non, c'est pas vrai, vous imaginez ça. » Ou les gens qui souffrent de fibromyalgie, avant qu'elle soit reconnue, les gens disaient « Ah ouais, j'ai des douleurs. » Mais non, c'est dans ta tête, ça n'existe pas, tu comprends? Donc, c'est des maladies un peu étranges. Ouais. Et le cas du syndrome de la Havane est un peu de la même façon. Et l'hypothèse qu'on avait évoquée, Il faut quand même le dire, hein, c'est des gens qui ont souffert du syndrome de la Havane, c'est à peu près 1500 personnes. C'est quand même beaucoup. Et on se disait, OK, mais ouais. si cette maladie-là, elle est vraie, si elle est provoquée par quelque chose, qu'est-ce qui peut la provoquer? Donc, évidemment, on est allé d'abord avec des solutions simples, peut-être la présence de champignons dans la ventilation, des contaminants dans l'eau, etc. Et toutes ces hypothèses-là ont été rapidement écartées. Et on en est venu avec la possibilité que quelqu'un utilisait une espèce d'arme mystérieuse et que cette arme-là était capable de produire les fameux effets du syndrome de la Havane. Là, on se dit, là, on est dans un univers un peu de science-fiction, là. C'est vrai que dans les années 50 et 60, on avait parlé, dans le milieu un peu de la parapsychologie, on avait parlé d'armes psychotroniques. Je pense qu'on avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Les armes psychotroniques, c'était l'idée, on fait une bombe, mais il n'y a pas de détonateur. Le détonateur, c'est le poseur de bombe, finalement, qui lui a des pouvoirs psychiques et il va déclencher à distance l'explosion de la bombe. Tu vois un peu le genre. Donc, on racontait ça dans les années 60. Les Américains ont eu bien peur de ça, puis ça s'est révélé, finalement, que c'était rien que du vent, hein. On avait lancé ça, c'est un gros ballon que les Russes avaient lancé là, dans cette guerre de désinformation qui était la guerre froide. Moi, on s'est dit, est-ce que des armes un peu comme celle-là, presque fantastiques, pourraient exister? Parce que si elle existe, l'arme capable de provoquer un syndrome de la Havane, on est quasiment rendu dans Tintin et l'affaire Tournesol. C'est la patente mystérieuse. T'sais. Et personne ne voulait vraiment y croire. On disait non, c'est absurde de croire ça. Et là, on apprend, c'est une nouvelle, écoute, il faut prendre ça avec un grain de sel. Oui. Une nouvelle qui est annoncée par CBS News. Et d'après un informateur de CBS News, en 2024, le département de la Défense aux États-Unis aurait mis la main sur une machine qui fait l'effet du syndrome de la Havane. Donc, d'après cet informateur-là, c'est à la fois l'agence de la sécurité intérieure, la CIA et le département de la Défense.
Oui.
Ils auraient, grâce à un informateur, ils auraient donc réussi à mettre la main sur un appareil. On parle au conditionnel ici. Ils auraient mis la main sur un appareil qui est à peu près la taille d'un sac à dos. Les composantes de l'appareil seraient d'origine russe, ce qui semblerait dire que les Russes sont derrière la patente, et cet appareil-là émettrait, ce que, d'après l'informateur, lui parle de impulsion d'énergie radiofréquence. On savait déjà dans le domaine scientifique que des basses fréquences, par exemple, ou certains niveaux d'ondes électromagnétiques pouvaient entraîner des inconforts. L'appareil dont on parle ici serait un peu dans la même signature. Mais bon, on n'en connaît pas beaucoup plus de détails. Apparemment, le département de la Défense, et conjointement avec la CIA et le département de l'Intérieur, comme j'ai mentionné, Sécurité intérieure, aurait déboursé des millions de dollars pour mettre la main sur le dit appareil. Dit appareil qui serait à l'essai ou serait en mode test actuellement au sein des autorités américaines. Et évidemment, CBS News a essayé d'avoir une confirmation auprès des différentes agences en question concernées. Elles ont toutes nié cette information-là. En fait, elles ont nié, mais elles n'ont pas non plus démenti. Là. Tu comprends? Non, je ne l'ai pas. Ouais. C'est en fait pas de commentaire. C'était plutôt ça la réponse. Pas de commentaire. Donc, ça reste un peu ambigu. Est-ce que cet appareil-là existe ou non? Est-ce que c'est encore une fois une espèce de ballon lancé comme ça en ouais. l'air pour essayer de faire de l'intérêt sur les médias sociaux? Là? Ça reste un peu ambigu. Mais si un tel appareil existe, puis on reste quand même prudent, mais si un tel appareil existe, on comprend que ça vient donner un peu de l'eau au moulin aux théoriciens du complot, hein, qui ont souvent pointent du doigt, même si on est dans une autre sphère, là. Mais, tu sais, ils pointent du doigt les tours de communication 5G et tout le reste, là, en disant « Ouais, ça va nous rendre malades. » Et même si les scientifiques nous disent « Non, les tours 5G des téléphones ne rendent pas malades les gens, c'est de l'imagination et tout le reste. » Bien, c'est sûr qu'un appareil comme celui-là, s'il il s'agit vraiment d'un appareil qui utilise des impulsions d'énergie radiofréquence, comme le disait l'informateur apparemment, bien, ça vient donner de l'eau au moulin à ces gens-là qui dénoncent un peu l'utilisation d'ondes radio, hertziennes, peu importe, mais l'utilisation de d'ondes qui pourraient éventuellement avoir un effet sur la santé, même si les autorités officielles disent que, à tout le moins dans le monde qui nous entoure, l'utilisation de ces tours-là ne présente aucune menace pour la santé publique. Donc, attendons. Donc, ça pourrait, si un tel appareil s'avérait bien réel, ça pourrait expliquer la raison du syndrome de Lavande. Ça pourrait également, comme je l'ai mentionné, venir un peu ajouter de l'eau au moulin des théoriciens du complot. Mais il y a quand même, pour l'instant, une grande question qui se pose. Si cet appareil-là existe, qui l'utilise et pourquoi? Ouais. Parce que même si on dit, OK, bon, il semble y avoir des composantes russes, on accepte cette information en disant, parfait, il y a des composantes russes. Mais qui utilise l'appareil et pourquoi il fait ça? Ça veut dire à quoi ça sert de rendre malades les employés de l'ambassade des États-Unis à La Havane ou les employés de l'ambassade canadienne en Russie? On va changer la personne va rentrer chez elle puis on va envoyer un autre ambassadeur. On ne ferme pas l'ambassade. Donc, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, là. Il n'y a pas... Il n'y a pas éventuellement une conséquence qui est directe ou qui est conséquente de ce déploiement-là. Tu dis, mettre tout ça en œuvre pour rendre malade un employé pour qu'il soit éventuellement remplacé par un autre, c'est un peu ridicule. Et on se demande, mais qui ferait ça aussi? Dire, de toi à moi, je ne veux pas donner d'idée à personne. Si tu veux rendre malade des gens, c'est un peu comme la théorie des chemtrails. Si on veut rendre malade, pas besoin d'envoyer du gaz à 35 000 pieds d'altitude ou d'utiliser un canon avec de l'énergie radiofréquence. On peut empoisonner de l'eau. Il y a des systèmes plus simples de rendre malade des gens que ceux-là. Ça devient un peu compliqué, puis ça devient même à la limite presque absurde. Mais bon, néanmoins, attendons de voir, est-ce que oui ou non, l'une ou l'autre des arcanes concernées va confirmer l'existence de cet appareil du syndrome de Lavande. Attendons pour voir les résultats. Mais bon, je trouvais l'information qui était un peu amusante
oui.
Et qui nous amenait un peu à la frontière des théories du complot et de la parapsychologie.
Oui, on est entre les deux ouais. Pas mal.
Oui. Et donc, oui, j'avais une petite nouvelle, et ça, c'est peut-être, on devrait quasiment partir la cornemuse.
Ah oui?
C'est peut-être le chant du cygne de Nessie, le fameux monstre du Loch Ness. Bon, parce que Nessie a perdu un de ses gros alliés cette semaine. Il faut savoir que, bon, le monstre du Loch Ness, on en parle depuis très longtemps. En fait... Même au 19e siècle, il y avait quelques récits d'un animal inconnu dans les eaux du Loch Ness. Et même si on fouille dans des archives, on apprend qu'il y aurait eu un monstre dans la rivière Ness là, dès le 5e ou 6e siècle. La rivière Ness qui se déverse dans le Loch Ness. Donc, est-ce que c'est la même chose? Quoique dans le cas de ce vieux récit là, du Moyen-Âge, là, du Haut Moyen-Âge, on est plutôt dans le récit religieux. Mais disons que les récits à propos, les témoignages à propos d'un animal inconnu dans le Loch Ness, elles ont surtout débuté à la fin du 19e siècle et elles ont connu une recrudescence là, à partir des années 1930. Qui correspondait également à toutes sortes de trucs. Hein. Je veux dire, c'était également la période des grandes explorations. On découvrait l'Afrique avec toutes sortes d'animaux exotiques. Donc, il y avait au cinéma, en même temps, on sortait King Kong. Puis dans King Kong, dans la version de 1933, il y a une espèce d'animal lacustre qui ressemble assez étrange, qui va éventuellement ressembler au monstre du Loch Ness. Donc, qu'est-ce qui vient? C'est un peu comme l'œuf et la poule. Hein. Qu'est-ce qui vient avant l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est King Kong qui vient avant le monstre du Loch Ness ou le Loch Ness qui vient avant le monde, avant
ouais, c'est ça, ouais.
Mais bref, bon, c'est clair que le cinéma et la culture populaire, les récits d'aventure ont alimenté tout ça. Mais là où je voulais en venir, parce qu'encore une fois, j'ai les yeux braqués sur l'horloge, et je vois le temps qui défile. Ça dépasse le temps trop vite. Mais bon, parmi les gens qui étaient un ardent défenseur du monstre du Loch Ness, et quand je dis défenseur du monstre du Loch Ness, pas forcément qu'il attribuait au monstre du Loch Ness que c'était un monstre préhistorique qui avait survécu, mais qui défendait l'idée qu'il y avait dans le Loch Ness un animal inconnu. Même si cet animal n'était pas nécessairement un animal exotique, il défendait l'idée qu'on était peut-être en présence d'un animal exotique inconnu, okay. De la faune connue du monstre du Loch Ness. Et cet individu, c'était Adrian Shine. Adrian Shine est un biologiste marin. Il se définit comme un biologiste marin. Il faut savoir que c'est un autodidacte, donc il n'y a pas une formation académique dans ce domaine-là, mais c'est un individu qui a une connaissance encyclopédique. Moi, je dois t'avouer, là, il y a peut-être maintenant une quinzaine d'années, j'étais allé au Loch Ness et j'ai eu la chance de dîner avec Adrian Shine. C'est un individu qui connaît bien sa matière. Hein, bon. Et là, voilà que cet autodidacte, qui est d'ailleurs aussi, il faut savoir que la capitale du monstre du Loch Ness, c'est un petit village sur la rive ouest du Loch Ness qui s'appelle Drumnadrochit ou Drumnadrochit. Et dis-toi que si tu te retrouves à Drumnadrochit ou Drumnadrochit, peu importe comment on le prononce, si tu te trouves là, c'est parce que tu voulais y aller. Tu te perds pas, là. Tu sais, je veux dire, assez. Pour aller ça, là, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de te retrouver là. Écoute, le village a à peu près 1000 habitants et l'été, ça monte à 4000 habitants avec les touristes. Il y a 2 musées du Bon Loch Ness, 15 restaurants, 3 hôtels. Donc, tu vois un peu le genre. C'est un village qui vit au rythme du monstre du Loch Ness. Et l'un de ces fameux musées du monstre du Loch Ness, le Centre d'interprétation du Loch Ness, le conseiller scientifique, c'était justement Adrian Shine. C'était d'ailleurs à cette occasion que je l'avais rencontré. J'avais pris rendez-vous avec lui, j'ai visité le musée, puis ensuite on est allé dîner ensemble. Puis là, il me parlait un peu de son histoire. C'est un individu qui a emménagé, en fait. Il a eu la piqûre du monstre du Loch Ness dans les années 70. En 1973, il s'est installé, il a déménagé pour s'installer sur les bords du Loch Ness. Et il a mené toutes sortes d'opérations pour des opérations, des expéditions, peu importe comment on les appelle, mais son objectif premier était de démontrer la présence d'un animal inconnu dans les eaux du Loch Ness. Et il a mené une opération qui a fait grand bruit en 1987, qu'on a appelée opération Deep Scan. Il avait nolisé là, une vingtaine d'embarcations et qui se sont déployées d'un bord à l'autre du Loch Ness. Chacune de ces embarcations-là avait un sonar et le faisceau sonore de chaque embarcation empiétait un peu sur le signal sonore de l'embarcation qui était aux côtés de lui. Ce qui fait qu'on avait sur toute la largeur du loch, on avait déployé une espèce d'écran complet soutenu d'une berge à l'autre, d'un écran magnétique créé par les échos du sonar, ouais. Et ces embarcations-là ont monté et descendu à 2 reprises le Loch Ness. Quel que soit l'animal ou les animaux qu'il y avait dans le Loch Ness, ils ne pouvaient pas échapper à cette détection. Or, cette opération qu'on a appelée opération Deep Scan, on captait à 2 reprises des échos mystérieux, disons ça entre guillemets, là, mystérieux, mais rien non plus de très éloquent. Là. C'était bon, un petit écho ici, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un banc de poissons, un banc d'anguilles ou d'autres types d'animaux? Il n'y avait rien qui était très éloquent. Mais bon, l'opération Deep Scan, c'était beaucoup plus spectaculaire à l'extérieur que le résultat a proposé par la suite. Et éventuellement, cette idée-là d'un animal inconnu dans le Loch Ness a été souvent remise en question, mais je dirais que son coup de grâce est arrivé un peu en 2019, entre 2017 et 2019, mais les résultats publiés en 2019, c'est un scientifique de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande, il s'appelle Neil Gemmell, il est allé au Loch Ness, il a fait des centaines de prélèvements d'eau, et ces échantillons d'eau ont été soumis à ce qu'on appelle de l'ADN environnemental. Il faut savoir que chaque espèce animale contamine son environnement, soit par des petits pépis, des cacas, peu importe, mais on contamine l'environnement. Et à partir d'un milieu aqueux, donc dans un lac, si on analyse l'ADN qu'on retrouve dans des échantillons d'eau, on peut déterminer quelle est la faune qui se trouve dans cette étendue d'eau. Et c'est ce que fait Neil Gemmell à 2 reprises, en 2017 et 2019, et puis ensuite il a publié les résultats, et les résultats démontraient qu'il n'y avait aucune espèce inconnue ou exotique dans le Loch Ness. Aucune. Il n'y a pas d'ADN de ça. Tous les échantillons montrent des colonies d'animaux qu'on savait habiter le Loch Ness. Ce qui a surpris toutefois, c'est la quantité d'ADN d'anguilles. On savait qu'il y avait des anguilles dans le Loch Ness, mais la quantité d'ADN d'anguilles prélevées dans des échantillons d'eau était tellement élevée que ça nous montre que les colonies d'anguilles qui habitent le Loch Ness sont beaucoup plus importantes qu'on le croyait. Mais il n'y avait pas d'espèce animale particulière qui était dans le Loch Ness. Et ça, c'est venu un peu torpiller la position d'Adrian Shine, parce que, comme je te le mentionnais, lui défendait l'idée que dans le Loch Ness, il devait y avoir des espèces étrangères. Et moi, je me rappelle, quand j'ai dîné avec Adrian Shine, l'hypothèse que lui favorisait, c'était des esturgeons de la Baltique. Donc, pas le monstre préhistorique survivant, là, mais il croyait que des esturgeons de la Baltique, qui ce sont quand même des très, très gros poissons qui peuvent atteindre 3 mètres 50 de long. Lui, il disait, des esturgeons de la Baltique pourraient remonter à travers le canal calédonien, pourraient tomber dans le Loch Ness pour venir frayer dans le Loch Ness et ensuite retourner à l'océan. Donc, on comprend qu'un riverain qui fait de la pêche sur le bord du Loch Ness, qui est habitué de prendre des petits poissons qui mesurent 30-45 cm de long, ben, s'il voit un poisson de 3 mètres de long au côté de son bateau, il va se dire, c'est le monstre.
Oui.
Tu comprends? Donc, c'est un peu l'idée qu'Adrian Shine... Voilà. Donc, Adrian Shine proposait, c'est probablement des esturgeons de la Baltique. Les analyses de l'ADN environnemental de Neil Gammell ont démontré que ce n'était pas le cas. Il n'y a pas d'esturgeons dans le Loch Ness. C'est vraiment des animaux qui sont endémiques au Loch Ness. Et voilà que cette semaine, ben Adrian Shine, dans une entrevue, a dit que finalement, il se rangeait de ce côté-là. Il n'y a pas d'animaux exotiques dans le Loch Ness.
Bon.
C'est toujours, c'est ou bien des anguilles ou d'autres poissons. Et peut-être aussi beaucoup des vagues. Hein. Les gens, parfois, des vagues peuvent créer à la surface de l'eau des remous inattendus. Mais l'idée d'un animal inconnu dans le Loch Ness, maintenant, Adrian Shine a baissé le drapeau là-dessus.
Ah là là.
Et c'est peut-être le chant du cygne de Nessie.
Et voilà, c'est la fin peut-être du monstre, Christian.
Mais c'est la fin de notre émission.
Oui, en tout cas, également. Il me reste à te souhaiter, à toi et aux auditeurs, un excellent week-end.
Oui, et, aussi.
Et on se retrouve inévitablement vendredi prochain.
Absolument, pour un autre Radio X-Files. Salut.
Merci, Christian. Bye, bon week-end. C'était les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 ans Radio X.
This is not a test. Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X.